France Musique.
Bonsoir Lionel, on vous retrouve lundi prochain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
This is an electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi j'ai trahi la musique respectable et la musique concrète. Et le violoncelle de mon enfance pour le magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
Bruno Le Thor.
Nous recevons dans ce tapage nocturne Christophe Guiraud à l'occasion de la parution du disque monographique qui lui est consacré et qui reflète le travail d'écriture ciselé qu'il développe ces dernières années. Mais ouvrons cette émission avec une nouveauté discographique, celle que nous propose Phonophanie, alias Espen Sommer Heide, avec son opus Animal Imagination. Fait de sons conjointement granuleux et étincelants, à quoi il ajoute des sons nés de ses propres outils sonores qu'il a développés au fil du temps, Phonophanie invente un langage presque imagier. Il fait tourner ses particules incandescentes comme une caravane d'insectes bigarrés en ellipse autour d'un unique photophore. Cette épopée stroboscopique, écrit-il, expédie ses reflets et d'innombrables globes lumineux, esquissant une chorégraphie complexe qui dévoilerait la structure compositionnelle cachée. Extrait de Deep Learning, l'un des titres du nouvel album de Phonophany, qui vient de paraître sur le label norvégien Hubro. Passionné par une sorte d'extatisme instrumental, si cher à Ligeti, Christophe Guiraud a esquissé un langage très personnel, singulier comme l'on dit, qui mélange avec subtilité les instrumentariums anciens et modernes. Ce qui surprend chez ce compositeur, ce sont les courbes esthétiques qu'il a forgées allant de la noise version rock à l'improvisation débridée, pour aboutir à cet étonnant langage que nous allons explorer tout au long de cette émission, à travers Yéra Pikraeli et Borès, son disque monographique. Bonsoir.
Bonsoir Bruno.
Vient de paraître sur l'excellentissime label Sub Rosa un disque monographique baptisé Yéra Pikraeli et Borès. Racontez-moi un peu la signification de ce titre.
Alors, Yéra Pikraeli et Borès, on peut le dire de plusieurs manières. C'est un titre en fait qui date de... Enfin du moins c'est un terme qui date de l'époque antique. À l'époque où les médecins utilisaient certaines potions, on va dire certains antidotes contre la mélancolie. Donc à l'époque, la bile noire, on faisait vomir les patients avec une certaine potion. Donc ça, c'est la Yéra Pikra, c'est la formule. Et le lébor, c'est la fleur. Donc en fait, ce qui aujourd'hui est la rose de Noël, hein, qui est sur nos tables lors de nos repas de Noël, qui est en fait une fleur qui peut être un poison terrible. et qui aidait donc le patient à, entre guillemets, à faire vomir cette bile noire.
Ce disque regroupe des œuvres de 2011 à 2016. Comment vous voyez l'évolution de votre écriture sur 5 ans ?
C'est assez passionnant parce que les toutes premières pièces ont été faites avec l'ensemble Agri, justement. Et pour moi, c'est une espèce d'école avant d'être un ensemble qui jouait des pièces complètement écrites. Donc j'avais une somme de côté et je louais, entre guillemets, des musiciens pour expérimenter dans une chapelle à côté de Bruxelles. Donc mon écriture a complètement évolué et finalement j'ai gardé deux pièces de cette expérience avec l'ensemble Agri qui s'appelle Fosse à oiseaux. Puis au fur et à mesure, d'autres ensembles sont venus à moi, des ensembles bruxellois notamment. Et du coup, j'ai pu me perfectionner, entre guillemets, dans l'écriture. Mais évidemment, au début, j'étais plus dans une écriture très proche de Feldman et qui a dérivé vers une écriture spectrale mélangée au contrepoint subtilior.
Là, vous venez de citer Feldman, c'est un compositeur qui est souvent une référence pour vous. Qu'est-ce qui vous fascine dans son écriture ? Est-ce que c'est son rapport à la temporalité ?
Alors chez Feldman, il y a tout d'abord cet étirement, donc ce rapport à la temporalité évidemment qui est frappant. Mais la première fois que j'ai écouté Feldman, c'était Violin and String Quartet, une œuvre tardive, une œuvre de la fin, et c'était cet harmoniste placé au milieu de l'avant-garde européenne et américaine qui abordait les manières d'une toute autre façon, un petit peu comme Cage, mais assez différemment. Alors j'ai eu une partition sous les yeux, je m'attendais à quelque chose de graphique ou quelque chose d'ouvert. Et là, j'ai rencontré une écriture tout à fait traditionnelle. Et j'avoue que ce qui m'a fasciné en premier chez Feldman, c'est ce qui se place derrière l'écriture, c'est-à-dire cette notion du temps, le fait qu'il ne tourne jamais les pages, il ne revient jamais en arrière à ce qu'il disait, et qu'il avance, il avance, il avance, sur des temps extrêmement longs. Et une harmonie impeccable, c'est-à-dire toujours cet ostinato qui évolue. Par exemple, dans Violin String Quartet, c'est la sol, toute l'œuvre, et derrière, des zones d'accord qui vont faire changer l'harmonie comme ça, qui vont la faire évoluer, qui vont la casser, qui vont la détendre.
Thank you. L'aspect graphique de votre composition, vous venez d'en parler, est très importante.
C'est vrai, dans mon écriture, même dans mon écriture traditionnelle, et là je suis feldmanien, je pense qu'il est important de l'écrire à la main. Après ça c'est tout à fait personnel. C'est-à-dire que
Christophe Guiraud,
une blanche ne sonnera pas pareil si elle est écrite à la main ou à l'ordinateur. Bon bref, c'est un peu un fantasme ou du moins une utopie, mais j'ai l'impression que ça marche. Feldman disait ça. Donc évidemment j'ai besoin d'écrire pour mieux composer. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris, je trouve c'est un petit peu le travail de l'écrivain ou du peintre. Oui.
L'itinéraire vous emmène de la musique électronique, l'improvisation, à la musique écrite. Comment s'est passé un peu ce parcours ?
Évidemment,
avec différents noms d'ailleurs, on en parlera dans un instant.
Oui. Disons que, en parlant en général, la musique improvisée expérimentale, je l'ai eu fait en tant qu'instrumentiste, mais surtout dans l'électronique, ce qu'on appelle aujourd'hui la noise, qui peut être très douce notamment, hein, pas forcément brutale et brutiste. Et il y a eu toujours une notion d'harmonie quelque part dans cette musique, c'est-à-dire qu'on place des bruits, on échelonne, on structure des layers, des couches, mais à un moment donné, il me manquait l'human being, j'ai envie de dire, il me manquait de revenir à l'instrument, de garder cette énergie, mais d'essayer de l'écrire avec quelque chose d'humain derrière, donc il a fallu que j'apprenne à écrire, sans perdre pour autant le toucher de ces musiques-là.
Vous avez signé quelques opus sous le nom de Télémaque.
Télémaque, oui.
Ce pseudo différencie-t-il votre approche musicale? Est-ce que pour vous, Télémaque, ça correspond à une période précise?
Oui.
Alors que Christophe Guéraud correspond à une autre période.
Tout à fait. Télémaque, vraiment, à un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être porter son vrai nom, tout simplement. Mais Télémaque, oui, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est qu'avec le recul, je m'aperçois que c'est vraiment un nom qui collait à cette époque expérimentale, noise, une période, j'ai envie de dire, non écrite, entre guillemets, ouais, quelque chose comme ça.
Thank you.
Vous utilisez dans vos compositions parfois les instruments anciens. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette lutherie, qui est souvent une lutherie imparfaite?
Justement, l'imperfection et la possibilité d'ouvrir un champ spectral d'ailleurs, très étonnant. Par exemple, les possibilités d'harmonique avec ces instruments sont tout à fait incroyables. Même un grand instrumentiste comme par exemple André Mardelcourt peut vous faire une série d'harmoniques, mais elles ne se maîtrisent pas toutes. On a toujours une surprise, même l'instrumentiste le dit, toujours une surprise quelque part avec les flûtes baroques, les flûtes haute terre aussi, ou bien un violon baroque par exemple. Il y a quelque chose de détendu, le diapason est un petit peu plus bas, donc on est dans une sonorité, quelque chose qui sonne beaucoup plus trempé comme ça, beaucoup plus organique, ouais.
Qu'aimez-vous dans ce grand écart que vous livrez entre l'électronique, je parle du traitement en temps réel, et les instruments anciens?
Justement, ces instruments ont des possibilités sonores et spectrales qui sont tout à fait incroyables. Et je retrouve un petit peu, à l'époque, quand je manipulais où je faisais du bending avec des machines électroniques, où je détournais des ordinateurs qui buguaient, cet imprévu, cet imprévisible du moins. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, d'autant plus le fait de l'écrire.
Christophe Guiraud.
On est un petit peu dans une impasse quelque part sur chaque partition, puisqu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Mais je trouve que la relation est directe, entre bruit et instrument ancien, ouais.
Thank you.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Souvent, la scène électronique refuse le mot compositeur. Vous l'avez accepté ?
Il faut l'accepter, parce que de toute façon, du moment où on imbrique 300 ensemble, on compose quelque chose. Donc maintenant, je pense que la scène électronique refuse le mot compositeur, c'est plus une idée politique, c'est-à-dire on refuse le statut de compositeur plus que le mot.
Qui n'est pourtant pas un statut très enviable.
Tout à fait. Et puis on est dans le cliché de la musique écrite, c'est la musique des bourgeois, etc. Bon, je pense que les grands musiciens de noise et les grands musiciens de musique classique dépassent ce propos, mais effectivement, j'ai souvent rencontré ce problème. Ah, tu es compositeur aujourd'hui.
Christophe Guiron.
On est toujours compositeur, je pense.
Thank you.
On retrouve dans les œuvres de cet album le titre éponyme, une œuvre pour guitare électrique. Quel fut votre processus de composition? Est-ce que vous avez eu en tête ce qui est une référence dans le domaine de la guitare électrique, le fameux Trash TV Trance de Fausto Romitelli? Romitelli qui d'ailleurs a été créé par le même musicien.
Tom Powell. Alors c'est très rigolo, je vais faire une petite parenthèse. Romitelli était sur les bancs de l'école, il a appris à écrire, il était élève de Grisé, il a été élève aussi de Dufour, et il est allé vers le bruit, le rock'n'roll. Moi, j'ai fait tout à fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on se croise. C'est ce qui m'intéresse, et là-dessus, on se ressemble beaucoup. Pendant qu'il étudiait la musique spectrale, moi, je faisais du rock'n'roll et du noise. Donc, finalement, il y a eu un croisé. Voilà. Moi, je remonte à une écriture, mais je ne perds pas ce background noise, ce background rock'n'roll. Pour moi, écrire pour guitare électrique a été la pièce la plus facile à écrire, du moins la plus évidente, mais une des plus compliquées, parce que elle était évidente dans ma tête, c'est-à-dire que tout venait avec 15 ans d'expérience par rapport à ça. En revanche, le mettre sur une partition, ça a été tout à fait une drôle d'histoire pour moi, parce que j'avais l'impression d'être avant, même me retrouver à employer une technique d'aujourd'hui. Et donc, cette pièce a été créée par le même musicien, et en plus, le jour de la création d'Eria Picarelli Bor, elle a été jouée accompagnée de Trash TV Trance de Romitelli. Ce soir-là, elle était jouée par Carlo Siega. Et donc, on a pu voir la différence de parcours entre Romitelli et moi-même, et les pièces côte à côte dans le même concert. C'était assez touchant, d'ailleurs. Néanmoins, la pièce de Romitelli emprunte à un rock'n'roll qui est plus... C'est pas du tout péjoratif, ce que je veux dire, mais peut-être un peu plus fusion. La mienne emprunte à un rock'n'roll qui est plus indie rock, noise, plus extrême, comme My Bloody Valentine ou Merzbow, par exemple. Donc oui, c'est une expérience émouvante de voir ces pièces côte à côte, après tout, tout ce trajet parcouru par l'un et par l'autre.
Cette collection s'arrête en 2016. Est-ce que vous préparez déjà la suite, le 2017?
Oui, on essaye de préparer quelque chose. Là, il y a deux projets. J'aimerais sortir une pièce pour justement la pièce de Ira Picarelli Bor, qui sera créée par Tom Powell, qui a été créée par Tom Powell, mais qui sera enregistrée par Tom Powell prochainement. Et sur l'autre face, si c'est un vinyle ou pas, si c'est un CD, sur Sabrosa, ça serait une nouvelle pièce pour 4 guitares. Bon, pour l'instant, c'est encore en discussion, mais voilà. Et ensuite, encore un troisième opus qui serait des pièces pour piano. Notamment une qui a été créée récemment par Stéphane Ginsberg, à Pical. Et l'autre pièce sera une pièce qui sera créée par Caterina Roberti en mars prochain. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, Christophe Guiraud, et à bientôt.
Merci beaucoup pour nous, à bientôt.
Hierapikra Eliéborès, interprété par Tom Powells à la guitare électrique, une œuvre de Christophe Guiraud qui était l'invité de ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Philippe Mercher, attaché d'émission Soisic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Création mondiale d'Anne Montaron.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.